Bon, d'accord. Donc, cherchons à être le plus compostable possible pour que perdurent nos productions, nos bonnes idées. Mais en dehors de permettre leur survie, ça sert à quoi de travailler sa compostabilité? Alors, le premier intérêt de la compostabilité, ça pourrait être de favoriser la création de richesses humaines. On peut expliquer ce principe en dissociant trois niveaux de richesses qu'on peut trouver dans un groupe humain. Il y a des richesses de niveau 1. C'est vraiment la juxtaposition des petites contributions individuelles. Il y a les richesses de niveau 2. Ça, c'est les productions qu'on arrive à faire en mélangeant les petites contributions individuelles. Et puis, il y a les richesses de niveau 3. Ça, ce sont les productions qu'on arrive à produire en mélangeant des richesses de niveau 2 de groupes différents. Alors, quand on parle de richesses, c'est pas véritablement des richesses marchandes ou monétaires, c'est plutôt des connaissances, des modes d'organisation, des habitudes, des compétences, des contenus de formation, des ressources pédagogiques, enfin tout ça. Et globalement, ça peut quand même être monétaire. On considère que quand on est au deuxième étage, quand on arrive à produire des richesses de niveau 2, donc quand on arrive à mixer les apports de chacun, et non pas simplement les juxtaposer, ça c'est des richesses de niveau 1, mais les richesses de niveau 2, c'est quand on mixte, des richesses de niveau 1, ben là, à partir de ce moment-là, économiquement, ça vaut quelque chose. Et souvent, on peut retirer bénéfice de la mise à disposition de ces richesses vers l'extérieur. Alors, comme évoqué, les richesses de niveau 1, donc c'est vraiment l'empilement en fait, de ce que chacun a pu ramener, ça n'a pas grand intérêt en tant que tel. Ça n'est que quand on passe le niveau 2, c'est-à-dire quand on arrive à mixer, à mélanger ce que chacun a apporté individuellement, que là, on crée vraiment de la richesse à forte valeur ajoutée, on pourrait dire. Et ça, ça n'est possible que si on partage vraiment, sincèrement, ce que chacun a ramené. Sans ça, c'est quasiment impossible de générer des richesses de niveau 2. On peut prendre l'exemple qu'on a vu, hein, d'ailleurs, sur la recherche scientifique. Quand on doit produire des connaissances scientifiques, la plupart du temps, c'est les scientifiques publient leurs découvertes, les partagent, et puis chacun, les pairs, s'appuie sur ses travaux pour aller plus vite et plus loin. Ça, c'est dans l'idéal, mais on a vu que dans le monde de la recherche, c'était pas juridiquement vraiment compostable. La plupart des publications scientifiques, même quand elles sont financées par des fonds publics, sont protégés en accès, ce qui en limite la capacité pour les chercheurs d'en disposer. Et ça rend très compliqué la création de richesses de niveau 2 quand on a ces freins juridiques qui sont mis en place. Alors on a vu que quand on levait ces freins, quand le piratage se mettait en place, ça facilitait vachement la production, et notamment c'est ce qu'on a vu avec la fameuse plateforme illégale, la SkiHub, qu'on a vu un peu plus tôt dans la formation, et qui permet vraiment un partage facilité des productions de chacun des chercheurs. Quand on se rend compte que pour que ça fonctionne, on est obligé de passer par du piratage, pour que ça puisse vraiment faire du partage un peu sincère de ce qui est produit, l'argument qui dit que pour créer de la richesse, il faut privatiser, ça ne tient plus tellement. Et donc, les barrières qu'on peut mettre au partage de nos richesses individuelles et collectives, ça remet vraiment en cause notre capacité à créer. Et pour imaginer des solutions inédites aux grands défis d'aujourd'hui, hein, c'est même plus les défis de demain, ça nécessite vraiment la rencontre fertile entre les mondes et son prérequis, c'est qu'on puisse vraiment partager nos richesses, et ce, sans condition. Sans ce partage, impossible d'aller plus loin. Donc, la compostabilité, ça permet cette création de richesses par le réagencement, le mixage des richesses existantes. Et ça, ça n'est possible que si elles sont vraiment en partage. Alors, composter, à quoi ça peut servir d'autre? Donc, ça peut servir à produire de la richesse, mais ça peut aussi servir à... Enfin, ça peut être aussi une architecture au bien-vivre. On sait qu'autour des projets, des structures, il y a des architectures qui se mettent en place, et ces architectures, elles peuvent autant libérer qu'enfermer les humains qui y sont présents. une architecture compostable, eh bien, par exemple, ça permettra à chacun de ses composants d'y entrer, d'en sortir, d'y contribuer ou d'en tirer profit, pour peu qu'il y ait des accords clairs de fonctionnement. La possibilité qu'il y ait un ou plusieurs départs dans un projet un peu pensé comme ça, c'est pas de souci, c'est pleinement intégré à l'architecture. Personne n'est véritablement indispensable puisque chacun porte en lui des parties de la richesse du groupe qu'il peut à tout moment recomposer ailleurs avec d'autres. Les richesses qui sont ainsi disponibles, l'action et le déplacement des individus au sein des groupes peut ainsi se faire de façon plus naturelle. C'est pour ça qu'on dit que la compostabilité dans les projets, ça favorise une architecture qui est profitable tant au collectif qu'à l'individu, parce que ça limite les impacts négatifs de la mort de l'un ou de l'autre. Donc la compostabilité, en plus de favoriser le montage, enfin la montée en richesse de ce qu'on produit, en plus de permettre de faire des collectifs qui favorisent le bien-vivre, la compostabilité, elle peut être aussi un vecteur de changement d'échelle. Puisqu'elle permet la réappropriation instantanée des recettes qui fonctionnent, en gros, la compostabilité, elle est un super vecteur de duplication, de réplication, mais aussi un super vecteur d'adaptation. Ainsi, chacun peut puiser dans l'expérience des autres les petites briques qui lui permettront de bâtir une solution qui est adaptée à son environnement à lui et son environnement immédiat. Cette façon d'imaginer, de penser la diffusion des solutions à grande échelle, c'est quand même à contre-courant des logiques qui sont un peu majoritaires aujourd'hui et qui consistent à dire que seules les structures qui sont à l'origine de la solution peuvent la répandre. Alors c'est sûr que c'est pas faux de dire que ceux qui ont imaginé la solution sont sans doute les bonnes personnes pour la diffuser, mais c'est pas suffisant. C'est assez contre-productif de croire qu'une solution viable dans un contexte, à un endroit, à un lieu donné, produira les mêmes effets ailleurs. Donc, la compostabilité, quand on la voit comme ça, ça nous invite vraiment à voir l'expérimentation comme un truc qui est inhérent à toute action. Du coup, il y a plus ceux qui innovent d'un côté et ceux qui diffusent de l'autre, mais il y a une logique plus fertile et plus résiliente du « tous acteurs des solutions ». Ça permet que des éléments de solutions pertinents puissent être immédiatement repris, associés, remixés, afin d'inventer d'autres réponses, un peu hybrides, mais inédites et clairement recontextualisées. Donc la compostabilité, ça constitue un formidable moteur d'innovation sociale, qui est sans doute à même d'assurer un changement d'échelle qui pourrait, à mon avis, aider à résoudre les défis qui se posent à l'humanité maintenant, quoi. Donc s'il fallait résumer pourquoi composter nos projets, parce que, un, en réfléchissant à rendre nos projets compostables, ça permet de vraiment faire monter le niveau de richesse de ce qu'on produit. On n'en reste pas à l'accumulation de richesse de niveau A. Ça permet vraiment d'aller plus haut et de produire de la haute valeur ajoutée. Quand on réfléchit à la compostabilité de son projet ou de son collectif, souvent ça fait des infrastructures qui sont vachement plus agréables à vivre pour les humains qui sont dedans. Et après, la compostabilité, c'est aussi travailler la compostabilité de son projet, c'est aussi de faciliter en fait le fait qu'il puisse passer à l'échelle.